création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Il est musicien et dans le cadre de ses activités est entré dans un drôle de labyrinthe. Ce qu'il a découvert dans des cassettes audio, le Tarabuste, depuis 2014. Il a commencé une enquête, s'est intéressé à la pédagogie freinée, s'est senti seul et a décidé de s'atteler pour ce création on air avec une journaliste, historienne de formation. Son aventure va nous conduire à la rencontre de jeunes filles élevées à Cherbourg dans les années 70. Les chantiers navals et l'arsenal faisaient alors vivre la ville et leur père. À Cherbourg, la mer est bleue quand il fait beau, Jean-Baptiste Julien, Marilène Carr, Christine Digère. Création on air.
Allô? Oui, c'est moi-même. Bonjour, monsieur. Oui. Ah, ouais. Ah bon, oh là. Béatrice Choubrac, ça me dit quelque chose, oui.
Le Havre ? Près de Cherbourg, le Havre ?
Ah bah oui. Moi, oui, Madame Grandguillotte, c'était le CM2. C'était la dernière classe. C'était la directrice aussi, Madame Grandguillotte.
C'est dans la Hague ! Eh ben, tu connais pas la région autour de toi ?
Non, je me rappelle pas de ça du tout. Je me rappelle très bien d'avoir eu une correspondante. Je me rappelle même de son nom et son prénom. Sur Paris, c'était les correspondants. Ça, je m'en rappelle très bien. J'ai beaucoup de souvenirs. On avait été à Branville aussi. J'ai quelques souvenirs de filles de la classe, Elisa Fabre, Isabelle Lemel, je me rappelle.
Je m'appelle Isabelle Lemel. La plage de Cherbourg s'appelle la plage Napoléon. Cette plage est artificielle.
Il y avait aussi Nadia, je ne me rappelle plus de son nom de famille, Nadia.
Je m'appelle Nadia Tison.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Nadia Tison.
Il y a environ 40 000 habitants à Cherbourg.
Nathalie Sanson.
Il n'y a pas de montagne.
Oui.
C'est une colline de 100 mètres.
L'échange scolaire, oui, je l'avais fait.
Qu'on appelle la montagne.
Oui, j'étais allée à Paris, chez elle, et elle était venue chez moi aussi. Parce qu'on avait dû le faire avec Madame Grandguillotte, ça, je pense, je ne sais plus si c'était en CM2. Mais après, non, ça s'est estompé après.
Je m'appelle Martine Fiat. La maîtresse s'appelle Madame Grandguillotte. Elle est très gentille. J'ai passé mes vacances dans le midi, à Saint-Raphaël.
Alors, je m'appelle Martine Fiat, la maîtresse s'appelle Madame Grandguillotte, elle est très gentille. J'ai passé mes vacances dans le midi à Saint-Raphaël. Bon. Je ne reconnais pas du tout ma voix et puis ça fait bizarre. C'est assez émouvant quand même de s'entendre. Ça a 40 ans. Nathalie Robillard, je me rappelle très très bien, elle n'habitait pas très loin de chez moi. Et elle est décédée en 2003 ou 2004.
À Cherbourg, il y a des bateaux de guerre très fréquemment. La mer est bleue quand il fait beau et elle est grise quand il fait gris.
À Cherbourg, la mer est bleue quand il fait beau. Une création de Jean-Baptiste Julien et Marilène Carr, réalisée par Christine Digère.
Mais vous avez trouvé où cette cassette-là?
J'ai trouvé ça dans une foire au grenier.
Ah ouais?
J'ai acheté un magnéto et puis il y avait des bandes avec et parmi les bandes il y avait celle-ci. Quoi.
Ah bah c'est vraiment incroyable. Mmh. Ouais, c'est vraiment.
C'est exactement ce que je me suis dit quand je suis tombé dessus.
Bah oui! Parce que ça aurait pu être n'importe qui aurait tombé dessus. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre ça à la poubelle et puis pas. Ouais.
Je crois que je m'en rappelle. Les élèves de CM2 1976, Isabelle Lemel, Valérie Lemolaire, Béatrice Choubrac, Sylvie Spiteri, Véronique Léon, Sandrine Godel, Patricia Jourdain, Catherine Marie, Bernadette Baudet, Nathalie Robillard, Martine Fiat, Nelly Jacquet, Elisa Femme, Marilyn Gauthier, Martine Le Chevalier, Nadia Tison, Sophie Didier, Nathalie Sanson, Nathalie Hardy, Agnès Le Tellier, Catherine Le Tellier.
Avez-vous déjà vu le président de la République?
Ouais. Mais il y a des noms qui me rappellent, mais il y en a d'autres que je m'en souviens pas. Ouais. Valérie de Mollère, ça, je connais bien parce qu'on habitait côte à côte, mais les autres, il y en a que je m'en souviens pas des noms. Ouais, c'est marrant. Bah, on était bon, plusieurs groupes. Bah, il y avait la famille Guylaine, il y avait la famille Chandelier, il y avait Spiteri, il y avait Mouchel. Des Mouchel, c'est sûr qu'il y en avait plein aussi. Ça, c'est... En fin de compte, tout ça, c'est des familles nombreuses, parce que même Eliane Hébert, ils étaient 8 enfants, je crois, aussi. Donc, c'est vraiment que c'était là-bas le groupe de familles nombreuses. Ouais, c'est marrant.
Dans le cadre de création sonore pour la danse ou le théâtre, j'ai travaillé pendant quelques années avec des magnétophones à bande que j'achetais dans des brocantes. Bien souvent, les vendeurs souhaitaient aussi se débarrasser des sacs de bandes qu'ils avaient dans leur grenier. Je pris l'habitude de systématiquement les écouter avant de les effacer. C'est ainsi que j'ai découvert des enregistrements d'enfants d'une école de filles de Cherbourg du milieu des années 70. À l'initiative de la pédagogie freinée, le magnétophone était utilisé comme moyen de correspondance avec d'autres classes, outil d'expression libre des enfants et occasion de sortir de l'école pour des reportages. Les noms des enfants laissés sur la bande incitaient à partir à leur recherche. En 2014, je rencontrais l'une d'entre elles et l'entrevue confirmait que la somme des parcours personnels pouvait dessiner le portrait d'une génération, d'un quartier, d'une ville. Après 2 ans de sommeil, nous reprenons à deux cette enquête à la recherche de Madame Grandguillotte, sa fille Marjolaine, Pierre Guérin, Martine Fiat, Gérard Picot, Béatrice Choubrac, Valérie Lemollère, Marilyn Gauthier, Catherine Marie, Sandrine Godel, Patricia Jourdain.
Vous m'aviez vous-même laissé un message. J'étais absent et donc je me suis permis de vous rappeler aujourd'hui. Oui, à la limite de Tournaville de Cherbourg, effectivement. Moi, je suis arrivé à l'école Jaurès en 1979. Voilà, donc moi, je n'ai pas vraiment connu la période méthode... pédagogie freinée et les échanges scolaires, quoi, puisqu'apparemment vous faites allusion à un échange avec d'une classe à une autre classe, quoi.
Je fais 1000 baisers à ma correspondante pour ses cadeaux.
Bonjour, je dis bonjour à la maîtresse de Cherbourg et à Marie-Hélène Singler. Au revoir.
Bonjour. Nous vous remercions du test sur les bidules. Il est très amusant parce qu'il dit des trucs marrants. Je suis contente que tu aies appris à faire de la voile. Cela doit être très intéressant, surtout les sorties en mer.
Isabelle Choubrac a été très gentille de m'envoyer la maquette de bateau qui est très belle. Stéphane Crépieux.
Je remercie les élèves qui ont écrit le texte mis en commun et le dessin. Au revoir.
Excusez-moi quand j'ai dit que c'était la moquette au mieux de la maquette. Fabienne, au revoir.
Je souhaite que tu te portes très bien et que ton bras ne te fait pas très mal.
Te fasse pas trop mal. Bon. C'est Zoubir qui a parlé.
Bonjour, j'espère que les textes du spectacle de Jacques Prévert vous plaira et que vous plairont et que les dessins aussi.
Bonjour, je remercie Fabienne Bossy car elle m'a fait très plaisir en donnant le cadeau qui avait les coquillages dedans. Au revoir, à bientôt.
Maintenant, je parle à toute la classe. En ce moment, nous travaillons sur le demi-litre et le litre. J'espère que vous savez ce que c'est, vous.
Cher Annick Simon, je suis très heureux de te parler. J'espère que tu as passé de bonnes vacances de Toussaint. Je te remercie de tes textes et de tes lettres que tu m'as envoyées et tes beaux dessins. Au revoir, Marcel.
Nous vous envoyons un petit journal qu'a fait la classe
où il y a imprimé des textes libres, etc.
Bon, alors on leur dit au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Bonjour,
bonjour à la maîtresse.
Bonjour à la maîtresse.
Écrivez-nous vite.
Les chasseurs de sons chez eux, aujourd'hui, un cas à part. Il s'agit de Pierre Guérin, le pionnier du magnétophone à l'école. Alors, Pierre Guérin, je crois que la première question que j'ai à vous poser, c'est de savoir pourquoi vous êtes venu au magnétophone, me semble-t-il, d'abord pour des raisons pédagogiques.
Oui, à cette époque-là, nous pratiquions la correspondance interscolaire manuscrite et les échanges de journaux scolaire que les enfants réalisaient. Et lorsque le magnétophone est arrivé en France, aux alentours de 1950, eh bien notre plus grand désir a été d'en posséder, de l'utiliser comme moyen supplémentaire de connaissance entre les enfants, qui habituellement étaient reliés par la lettre.
Oui, les semaines prochaines, je t'en prie.
Bonjour. Alors, vous avez fait le voyage. C'est la dame que j'ai eu au téléphone, je suppose. Je ne sais pas pourquoi, voilà. On le sent. Bon, alors, on va passer à la commande. Déjà, on va manger.
Oui. C'est magret de canard, bavette ou boudin noir.
Ça allait être marrant de m'écouter. Ouais. Je n'ai pas une grosse voix comme ça.
Non. Je vais déjà exporter tout.
J'étais un peu pitre à l'école, moi. Un peu beaucoup. Je ne sais pas si ça s'entend dans la voix. Je suis toujours, d'ailleurs.
Voilà. J'y suis, pardon.
Je me rappelle pas cette histoire de correspondance, c'est bizarre. Vous avez peut-être raison. Il faut chercher loin dans sa mémoire. Mais le truc de correspondant, oui, ça me... Quand vous m'en avez parlé la première fois, je ne voyais pas. Et je crois qu'on leur écrivait des lettres et tout. Ouais, ouais. Vous avez peut-être raison. Enfin, vous avez sûrement raison, vu que c'est... vous avez la preuve.
Je vous fais goûter la preuve.
Je
m'appelle Marine Gauthier. J'aime pêcher à la rocaille les jours de marée, des crevettes, des flies, des bigorneaux. C'est une quelques monuments de Paris.
Ça va beaucoup trop vite.
Je m'appelle Nathalie Sanson. À Cherbourg, il y a beaucoup de bateaux et de toutes les sortes. Sur la plage de Colignon, les coquillages sont nombreux. Nous irons en chercher. Je m'appelle Martine Fiat. La maîtresse s'appelle Madame Grandguillotte. Elle est très gentille.
Je m'appelle Nathalie Tardif. Vous nous avez posé quelques questions sur Cherbourg. Notre école s'appelle Jean Jaurès. Je suis dans les bonnes nageuses.
Je m'appelle Agnès Letellier. Il n'y a pas tellement de soleil à Cherbourg.
Oui, il n'y a pas tellement. La forme négative, vous n'aimez pas, hein?
C'est tout.
Je m'appelle Martine de Chevalier. Est-ce que Paris, c'est bien? Nous habitons à 1 km du port. Nous passons sur le pont tournant pour aller en ville. Aimez-vous Paris?
C'est marrant. Il y a que deux noms qui m'ont frappé. Je me rappelle déjà plus du prénom. Fiat. Valérie Fiat. Non, c'est pas ça.
Martine.
Martine Fiat. Alors, ça devait être une copine. Les autres, non. Ça me dit rien. Autrement, ben voilà. Donc, on s'adressait à une autre classe. C'est ça. On leur pose des questions et on leur décrit notre ville.
C'est ça. Et la classe correspondante, c'est une classe de la banlieue parisienne, d'une commune qui s'appelle Thiers.
Ah, et... C'est ça, oui. Oui. On y a été. Ça y est. C'est dingue comment vous remontez les choses. On y a été en quart, je me rappelle, on a été les voir. Et vous voyez, l'autre fois, vous m'en avez parlé, je disais, oh non, on n'avait pas de correspondant. On y a été, on a été en région parisienne, exact. Et alors là, c'était sorti de... plus, moi, j'ai une très mauvaise mémoire, alors là, ça m'était sorti de la tête. Et je vois encore, oui, qu'on y a été en quart. Alors, dis donc, faut que j'aille chercher loin. J'ai été reçue dans les familles, donc. Je crois que c'était dans un HLM que j'ai été. Moi, je connaissais pas les HLM, en plus. J'avais jamais vécu un HLM. Et oui, j'étais dans une famille en HLM. Après, ils m'en demandaient pas tellement plus. C'est déjà très loin.
Ah oui, Marilyn Gauthier.
Voilà. Alors moi, si je me souviens bien, elle habitait rue du Bois. C'est ça. Et ses parents n'étaient pas à Bar.
Ah ben voilà, c'est ça.
Maintenant qu'on dit le nom,
voilà,
Marilyn Gauthier,
ça me dit quelque chose.
Voilà, donc c'est cet élève-là, ça je suis sûre.
Ils vont sûrement se souvenir de moi, que moi je ne me souviendrai pas d'eux.
Oui, Marilyn Gauthier.
Et j'avais une particularité, c'est que j'avais une... Voilà, j'ai les cheveux courts, mais j'avais une grosse tignasse. Et auburn.
Elle était rousse, elle avait les cheveux...
Voilà. Il y en avait un visage rond et des taches de rousseur, mais...
Parce que chez nous, on est un peu roux, enfin, roux auburn. Donc, ils se souviennent de moi par rapport à ma tignasse, hein, la lionne, voilà.
Physiquement, c'est quelqu'un qui avait les cheveux très très longs, très jolis cheveux, roux.
Et on m'a dit, ta grosse tignasse prenait toute la place quand on était derrière toi. Oui, en effet. Je me suis coupé à mes 50 ans mes cheveux, mais j'avais, voilà.
Elle était à Jean Jaurès, Marilyn Gauthier. Elle habite rue du Bois, de mémoire. Sa maman, si je ne dis pas de bêtises, devait tenir un bar, rue du Bois, mais partie Cherbourg. Parce que la rue du Bois, elle est, quand on la descend, si vous voulez qu'on va vers les CMN, elle est côté droite Tour-la-Ville, côté gauche Cherbourg.
C'était la rue du Bois où j'habitais. Bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup de clients du MOPA, mais le MOPA, c'était les HLM, c'était... ouais, c'était les HLM, quoi, on va dire. C'est toujours les HLM, d'ailleurs. Mais l'abattoir, d'ailleurs, le bar de ma mère s'appelait le bar de l'abattoir, qui existe toujours, l'abattoir de Cherbourg. Mais autrement, il y avait des petits jardins, c'était beaucoup de papy le matin, des petits jardins au bout de la rue, où chacun avait son petit carré, ils se rejoignaient tous, et ils venaient boire un coup chez maman. Enfin, c'est vrai que c'était complètement différent d'aujourd'hui, hein, les bistrots et tout, c'était une autre ambiance, on va dire. Ça a beaucoup changé. Ben, j'essaie de recréer un peu ça, ici dans le village, mais ça a été très compliqué, parce que bon, ça a été fermé longtemps ce bistrot. Moi, je l'ai tout réaménagé et tout rouvert. Hein. J'essaie de recréer un peu cette ambiance de tout le monde se connaît, c'est convivial, ce qui n'est pas évident au début. Hein. Ça vient, tout doucement.
Après-guerre, il a fallu tout reconstruire, reloger des milliers de personnes. À l'est de la ville, le quartier du Maupas sort des champs en quelques années. Les nouveaux HLM cohabitent avec les terrains vagues et les jardins ouvriers. Il y a au sud la montagne du Roule et au nord la mer. C'est déjà un peu la ville et encore la campagne. De Gaulle fait entrer la France et Cherbourg dans le nucléaire. Les filles se marient avec les ouvriers de l'Arsenal ou des CMN, les constructions mécaniques de Normandie, d'où sortent les sous-marins nucléaires et les vedettes militaires. Les hommes ont du travail de père en fils. Les filles font des enfants qui prendront en bande le chemin de l'école en passant devant le chantier des abattoirs et du boulevard de l'Est.
C'est vrai que c'était un quartier populaire, mais les gens étaient solidaires, il y avait une bonne entente.
Ouais, voilà.
Ah oui, moi j'ai un très bon souvenir de mon enfance.
Alors moi j'habitais tout près de l'école et c'était les appartements réservés aux gens qui travaillaient au CMN, les constructions mécaniques de Normandie. Donc mon père travaillait là-bas, donc on était dans une résidence. C'est vrai que c'était des beaux appartements et réservés aux gens des CMN. Donc toi t'es resté au Maupas jusqu'à
17 ans.
Jusqu'à 17 ans.
Après ben, je suis partie.
Ouais. Et le quartier s'est agrandi, il y a une autre zone.
Oui, mais alors le quartier du Maupas maintenant c'est autre chose. Hein.
Ça existe toujours, mais bon.
Mais c'est plus du tout pareil.
Pas du tout. Ah
non.
Ouais. Ouais.
C'est sale. Nous c'était très propre.
Ça fait une vieille cité maintenant.
Oh oui.
Ça fait une vieille cité.
Ouais.
Notre école est située à la fin du Cherbourg et au début de Tour-la-Ville. Je suis dans le groupe des moyens.
Je m'appelle Sandrine Godet, nous avons des leçons de gymnastique. Je suis allée en vacances en Vendée, j'ai campé à Saint-Jean-de-Mont. Est-ce que vous habitiez loin de l'école ?
Directrice de l'époque qui s'appelle Madame Grandguillotte est malheureusement décédée. Et donc je l'ai eue comme directrice un an puisqu'elle est partie en retraite en 1980. C'était une dame qui était très implantée dans le quartier du Maupas, qui est un quartier qu'on classe maintenant dans les quartiers difficiles. C'était une personne qui avait une forte personnalité, qui était très respectée dans le quartier.
Ma mère, j'ai pas retrouvé grand chose, mais elle tenait un registre de ses rapports d'inspection. Le premier qui se passe, alors, fille du Maupas, Jean Jaurès, je crois que c'est le premier, celui-là. Premier rapport d'inspection. Dans ce quartier neuf, la nouvelle école que dirige Madame Grandguillotte a recruté son effectif dans plusieurs groupes scolaires de la ville et de la banlieue. La diversité des origines se fait sentir dans les résultats obtenus, particulièrement dans les habitudes de présentation et de tenue. Donc ça devait être très très hétérogène, effectivement. Alors, tata. D'autre part, le milieu assez déshérité du quartier correspond à un niveau scolaire relativement bas ou plutôt retardé. Donc après, il parle de ses efforts, à téléprogrès. Bon, mais là, ça montre effectivement que c'est bien une école neuve, dont on a pris la population sur d'autres écoles. Je pense que c'était en pleine expansion après la guerre, quoi.
Oui, oui.
Parce que Cherbourg a été quand même profondément détruit pendant la guerre, donc...
Dans des conditions ingrates, Madame Grand-Guillotte s'efforce de mettre à profit ses très bonnes aptitudes pédagogiques.
Ah oh bah oui, c'est toujours élogieux.
Que c'est à son enseignement un entrain personnel de bonne marque.
Et l'école normale, quand ma mère l'a faite, c'était très très strict. Hein. C'était à Coutances, pendant la guerre. Et il y avait une inspection de la directrice avant de sortir. Elle vérifiait qu'elles avaient les gants, le chapeau, elles avaient une tenue correcte pour qu'elles soient respectables et respectées et qu'elles mettent à l'honneur leur futur. Ah ouais, c'était... Ouais.
Tenue du maître, très bien. Des élèves et discipline, très bien. De la classe et dépendance, parfaite.
Bon, bien, je crois que l'enregistrement ne va pas être très beau parce que c'est la première fois qu'on enregistre et puis parce que les élèves n'ont pas fait très attention aux consignes.
Mais terre.
Je crois que c'est pas demain matin que vous serez speakerine, hein. Bon, les autres se taisent. Nathalie va lire un poème.
La laitière et le pot au lait, la fontaine. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville.
Madame Grand-Guillotte était une femme élégante, belle femme, gentille, autoritaire.
C'est vrai qu'elle avait un charisme énorme.
Ouais, oui.
C'était une dame qui était fine, les cheveux souvent attachés, blond caramel.
Avec son fameux parapluie cloche transparent pour protéger justement son chignon ou son brushing, enfin bref.
Elle devait s'habiller chez Liliane Burti, moi je m'en rappelle tellement elle était vraiment coquette. Elle avait une tenue le matin, on allait à la piscine l'après-midi, elle se rechangeait. Alors c'est vrai, quand on a 10 ans, bon, quand on est dans un milieu ouvrier, elle est dénotée, quoi. C'est vrai que maîtresses, c'était la directrice, mais elle était vraiment...
Mais à l'écoute des gens, de toute personne, enfin toute catégorie, là. Ouais.
Mais sévère, mais humaine. Ouais. Voilà. On en garde.
Moi, je garde un bon souvenir.
Voilà, un bon souvenir, oui.
C'est une institutrice qui me faisait très, très peur. Donc,
on l'adorait, elle était gentille.
Elle était très stricte, très sévère, l'institutrice comme.
Madame Grand-Guillotte, elle était très gentille.
Et Madame Grand-Guillotte, c'était quelqu'un d'assez froid.
J'ai toujours apprécié comme maîtresse, elle était vraiment sympathique.
Enfin, moi, j'en avais très peur. J'appréciais pas.
Elle savait être sévère quand il le fallut, mais autrement, c'était une gentille directrice.
C'était quelqu'un qui nous paraissait assez distant, dans mon souvenir.
Elle habitait au Maupa à l'époque. Il y a le lycée Alexis de Tocqueville, et juste à côté, il y a un HLM. Donc elle habitait là, un appartement. On allait la voir de temps en temps, oui. Surtout qu'on oubliait les devoirs. Comme c'était juste à côté... C'était un petit appartement qu'elle avait. J'avais adoré parce qu'il y avait plein de trucs en velours, en peluche sur les meubles. C'était, pour nous, c'était autre chose que chez nous, quoi.
C'est qu'elle habitait dans les tours parce que ma mère faisait le ménage chez elle. Non, je ne rentrais pas chez elle, non. Je sais que c'était très beau parce que ma mère me le disait toujours, c'est très beau, c'est... Mais non. Si j'avais quelque chose, mettons une commission à aller lui faire par rapport à ma mère, on sonnait, on rentrait pas, on était à la porte et il y avait le respect et c'était comme ça.
Bien que d'origine modeste, j'ai beaucoup fréquenté le milieu bourgeois dans mon enfance. Ma mère travaillait et était la femme de confiance de plusieurs de ces dames. Petite fille sage, bien habillée, on m'acceptait avec elle et je devenais la camarade de jeu des enfants de la maison quand il y en avait. J'ai débuté, si je puis dire, chez le général Lebel. Famille de 10 enfants, catholique fervent, très agréable. Ma mère prenait le travail à 6h du matin, me laissait dormir. À 8h, elle revenait en courant, me levait et m'emmenait dans cette grande maison avec parc et écurie. Ma mère faisait les chambres et de la fenêtre de l'étage, je voyais la cour de l'école de la rue de Tourville. Un après-midi, à la récréation, j'ai déclaré avec véhémence que je voulais aller à l'école. Croyant à un caprice, ma mère m'y a conduite. J'ai traversé la cour, allant vers la foule, je lui ai fait signe qu'elle pouvait repartir. Incrédule, elle est allée trouver le groupe des maîtresses pour leur expliquer. Je n'ai pas voulu repartir, et depuis, l'école a toujours été mon centre de vie. Ainsi naissent les vocations. Jeanne Grand-Guillotte.
Ça avait coûté. Ne dénigrez pas les gens, c'était une femme qui n'était pas comme ça.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Parce que moi, je vois comme ma mère, quand elle faisait le ménage, elle était toujours... Elle se parlait, elle n'était pas...
T'es pas distante au point.
Non, pas du tout, non, du tout.
Avec qui elle vivait?
Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas si elle vivait avec quelqu'un, si...
Je crois que les 10 premières années qu'elle y a vécu, c'était très bien. Et après, ça s'est dégradé petit à petit. C'est que la population a changé, c'est devenu vraiment HLM, avec des familles... qui ne travaillaient plus. C'était la différence. C'est qu'au départ, c'était des gens qui travaillaient. Donc, et après, elle disait que beaucoup, parmi la population, pas uniquement, hein, mais beaucoup de gens qui étaient là, n'avaient plus, ne travaillaient pas. Donc, c'était... Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment souvenir de ces familles compliquées au niveau social, hein, avec des enfants pas en bon état. Mais je comprends pas que ma mère soit restée, bosser, oui, mais habiter dans cet immeuble, c'était... C'était quand même quelque chose. Hein. C'était vraiment le quart monde. Mais effectivement, ma mère était d'une famille. Son père a dû plutôt dans la marine, quelque chose comme ça. Et sa mère était femme de ménage. Pour eux, c'était une promotion sociale à l'époque, hein, de devenir instite. Hein. Et mon père, mon grand-père paternel travaillait à l'Arsenal, était un militant syndical. Quand ma mère a dit à sa famille, à ses parents, qu'elle fréquentait... mais c'est un rouge, ils étaient connus. Les grands guillotes sur Cherbourg, c'était des rouges au moment de 36, le petit foulard.
Mon père était un doux anarchiste qui détestait l'armée et l'église. Toute mon enfance, j'ai entendu cette phrase. Le crucifix d'une main, le poignard de l'autre. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche et sa fureur ne s'exprimait que verbalement. Ma mère avait été baignée dans la religion. Née en 1885, l'école publique était alors tenue par des bonnes sœurs. À la campagne, la religion, presque la superstition, tenait un grand rôle. Vers 13 ans, j'ai traversé une mauvaise passe au plan de la santé. Je me suis retrouvée la tête recouverte d'impétigo. Il a fallu me raser les cheveux. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir été affectée. Puis mon visage a été atteint. Pas question dans cet état d'aller parader à la fête Dieu. La procession passait dans ma rue et ma mère avait entrouvert les volets pour que je voie le défilé. C'est là qu'a commencé l'ébranlement de mes croyances. J'ai trouvé ce cirque si grotesque que je ne pouvais plus y adhérer. Et pourtant j'ai trouvé ça beau, dans mon enfance. Les dorures, la musique et l'odeur de l'encens. Et tout d'un coup, plus rien. Chez un enfant, c'est un vrai bouleversement. Je n'ai parlé à personne de mes problèmes métaphysiques. J'ai continué à participer aux réunions avec le curé, dont j'étais la seule opposante. Il aimait cela, alors que tout l'auditoire bêlait, il était obligé de trouver les nouveaux arguments à ses démonstrations souvent primaires. J'avais 16 ans en 36, et le Front populaire s'agitait beaucoup à Cherbourg. Je voulais voir les manifestations. Ma mère me laissait une totale liberté, mais m'accompagnait partout, un peu effarée. Son affolement a été total quand elle s'est retrouvée au milieu d'un meeting, à côté de sa fille, point levé, qui chantait l'Internationale.
Il faut savoir que mes parents étaient un peu comme les hussards de la République, très anticléricaux, et ma mère les restait... Elle était militante féministe, elle était au mouvement Choisir, elle était aussi au planning familial jusqu'à la fin de... Dans son courrier, elle me dit, ben non, si tu viens ce week-end, sache que vendredi soir, je ne serai pas là, j'ai une réunion au planning et ça revient souvent. Hier, j'ai cherché dans la boîte, je me suis dit, je vais regarder. J'en ai beaucoup, en fait. J'attends mes 34 anglais lundi et je me creuse la tête pour trouver des exercices qui les intéressent. Je dois voir l'institutrice demain soir au souper dansant. Je crois que cette fois, je vais m'y barber. Le lendemain ou quelques jours après, elle me dit pas du tout, j'ai dansé toute la soirée. Elle dansait très bien. Je souffle à la Pentecôte car le samedi suivant, 4 juin, débarquent mes anglais qui couchent là et le lendemain, je pars pour une semaine à Imbranville. Je rentre pour recevoir mes correspondants parisiens et après cela, je suis bien mûre pour les vacances. Les normaliennes ne croyaient pas que c'était si crevant le métier. Grosse bise.
Par une journée ensoleillée, nous sommes allés au château Renaissance de Tour-la-Ville.
De l'école au château, il y a environ 5 km. Pour y aller, nous avons pris des petits chemins à travers la campagne. Quelques élèves ont cueilli des fleurs. Stellaire, pervenche, plume verte. En partant au château de Tour-la-Ville, nous nous sommes arrêtés à l'étang des Costils. Un canard nage sur l'Ocam. Qu'il est beau! Nous voici en train de dessiner les frontons du château. Quelle belle perspective!
Alors, tandis que Gisèle et Nadia apprécient les détails de la façade, les élèves se mettent à dessiner.
Allongés à plat ventre dans la cour du château, quelques élèves dessinent une fenêtre à fronton de la façade. Au fond de la diapositive, accroupis sur le perron, d'autres admirent le château. Ce ne sont pas des musulmans en train de prier Allah, ni des filles prenant un bain de soleil, mais c'est tout simplement les élèves qui, de plus près, dessinent une fenêtre. Nous avons trouvé très joli le château de Tour-la-Ville. Vous nous invitez à voir le château de Versailles. Nous allons les comparer tous les deux. Nous croyons que le château de Versailles est plus grand. À notre visite à Paris, quelques-unes de nos camarades ne viendront pas. Il s'agit de Christine Soinard, Agnès Letellier, Nadia Tison, Guylaine Querel, Dominique Lemolaire, Karine Jeunesse et Brigitte Guylaine. Nous sommes heureuses et impatientes d'aller à Paris. En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Ce dispositif de diapositive
Non. Non, alors là, je ne me rappelle pas du tout. Je me rappelle d'une sortie au château où on avait dessiné les façades, mais je ne me rappelais pas qu'on avait enregistré, quoi. C'est vrai que j'ai complètement oublié cette partie. C'est incroyable, ça. J'arrive pas à me rappeler des têtes. C'est...
Et ce sont plutôt des souvenirs heureux ?
Ah oui, 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 c'est une bonne période, ça. C'était... Et puis on le voit bien sur les photos, de toute façon. Il n'y en a pas qui font la tête, là. On était tous des grandes familles. Ça, c'est... Il y avait minimum 6-7 enfants par famille. Il n'y avait pas de petite famille. À l'époque où c'était ça, le père travaillait, la mère restait à la maison à s'occuper des enfants, du ménage. Il y a des souvenirs qui reviennent, morceau par morceau. Je suis arrivée, je devais avoir 2 ans ici. Parce qu'on habitait tous le même quartier. Et nous, on habitait là. 40 avenue de Bremerhaven. Il y avait 4 chambres. Donc, il y avait Béatrice Choubrac qui habitait là, dans la tour. On jouait ici ou là. On faisait les bêtises que tous les jeunes font. On jouait dans les caves aussi. Autrement, on allait souvent dans la montagne derrière. Des fois, c'était des sorties en vélo, c'était des balades à pied, ça. Ça dépendait. On allait à l'école à pied avec les copains, les copines, et c'était des champs. Il n'y avait que l'abattoir, donc la nuit, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien quand on y allait dans le noir. Et là se trouvait notre école, à la place de, je sais pas, c'est une blanchisserie, je crois, maintenant. Et là, c'était une petite boulangerie, où on allait chercher nos petits bonbons à la sortie. L'entrée était là. Et on était séparés par une barrière avec les garçons, bien sûr. Soyez qu'en dehors de l'école. À l'époque, c'était comme ça, ça. Parce que nous, bon, c'est vrai qu'on était plus avec ceux de notre cité, comme Valérie Demey, Béatrice Choubrac, on était plus... Il n'y a qu'à l'école qu'on était avec ceux des autres cités, quoi. Et on avait des correspondants, ça c'était le petit plus de l'école, des correspondants qu'on avait eu à Paris. Moi c'était un Tunisien, très gentil. Donc il était venu passer quelques jours à la maison et moi j'avais été passer quelques jours à Paris chez eux. À l'époque, ce qui m'avait énormément choqué, c'est que comme c'est des Tunisiens, les hommes mangeaient avant et moi je mangeais toute seule. Parce que chez eux, c'est la tradition. Les hommes avant, les femmes après. Donc ça m'avait un petit peu choqué quand même. Parce que chez nous, on mange tous à la même table. Donc, bah, nous, ça nous faisait de quoi parler à la maison. Quand on disait, on rentrait, on disait, on a écrit à nos correspondances, ce qu'ils nous avaient écrit. On arrivait à parler un peu plus à la maison. Mon père était très, très dur. Très dur. Il ne fallait pas faire un pas de travers. Il valait mieux pas. Mon père était groutier à l'UIE et ma mère était à la maison. Moi, j'ai fait une formation de mécanicienne en confection. C'était un CP sur 2 ans, mais comme j'ai loupé une partie, j'ai fait une 3e année. Ça, c'est... À l'époque, c'est les parents qui choisissaient ce qu'on devait faire. C'était pas nous. Les parents, ils disaient, tu vas aller là, tu y allais. Point.
Cette formation, elle vous destinait à quoi?
À travailler à la chaîne pour faire des vêtements. Chose que j'ai jamais exercée. Aucune n'a travaillé dans ce qu'ils ont appris. J'ai quitté le lycée, j'ai travaillé un peu en tant que femme de ménage. Puis après, je me suis mariée, j'ai élevé mes enfants pendant 20 ans. Donc, c'est ma première arrivée assez vite. Donc, mon premier mari, avec lui, j'en ai eu 4. Et avec mon deuxième mari, j'ai eu une fille. Partie, j'avais 18 ans que je suis partie pour habiter un peu plus loin. Moi je suis née ici et puis je crois que je resterai là jusqu'à la fin. Mes frères, mes soeurs, tout le monde habite le coin.
J'ai un frangin qui est sur Néo, Nathalie qui est sur Carnizy, Isabelle Ardava, Cyril Ravenoville, Bruno il est sur Montpertu, puis les autres sont dans les Landes. Puis il y a un frère qui est décédé. Ouais. Mais la plupart sont restés dans le coin. En fait, compte, on suit tous d'un an, en fait, compte. Mais ma mère, elle nous a fait tous tous les ans. À part le dernier, qui est né en 1974. Je ne l'ai pas élevé, mais presque. Je m'en suis beaucoup occupée. Ouais. Je ne sortais pas beaucoup, et puis ma mère, elle allait faire le jardin et tout. Donc, c'est moi qui pouvais préparer et m'occuper de mes frères et sœurs, et puis préparer à manger de temps en temps. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident. Non. Mais bon, c'est des bons souvenirs quand même. Ben oui. J'ai été au lycée de Théouville et j'ai fait 3 ans, j'ai fait un CAP de couture, la couturière. Maintenant, je suis venue assistante maternelle. Mais entre deux, j'ai travaillé pour la mairie de Cherbourg. Je faisais le ménage chez les personnes âgées. Après, quand je suis sortie de l'école. Mais je n'ai pas été longtemps parce qu'après, je me suis mariée. J'ai eu ma première fille, puis après, je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé que quand les enfants étaient grands. Voilà. Sur Cherbourg, en fait, on n'arrivait pas à trouver de boulot. Mais au niveau couture, on ne trouvait pas trop. C'est vrai que... Bah ouais. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait en boulot.
Au début des années 70, la décentralisation industrielle profite à Cherbourg et aux femmes, qui, pour la première fois, ont accès à des emplois à l'usine. Au MOPA s'implante Alcatel, l'usine des femmes du Nord-Cotentin, qui embauchera jusqu'à 2000 salariés en 1976. Les usines de textiles d'Ormeuil et Miss Burty recrutent des filles qui travaillent à la chaîne. Le lycée Tocqueville, construit au pied des cités, forme les futures ouvrières en confection. Les autres feront dactylo. Mais quand elles atteignent l'âge d'être embauchées, la situation économique s'est dégradée. Les usines de textiles licencient. Alcatel et Thomson automatisent la production. La crise touche d'abord ces adolescentes nées au milieu des années 60. Des ouvrières spécialisées, peu qualifiées, qui ne trouveront plus de travail. Sur fond de désindustrialisation et de chômage, le Cotentin devient la presqu'île du nucléaire dans les années 80. Les grands chantiers de la Hague recrutent et font oublier la crise de l'industrie traditionnelle. Le nucléaire offre du travail, mais les femmes n'y ont pas accès.
Oui, c'est clair qu'on n'avait pas de... On n'était pas mis en avant pour les métiers du futur, ouais, c'est sûr. On nous proposait quoi, CAP Dactylo, hein. Moi, c'était pas mon truc, hein. Non, je l'ai passé après, toute seule. En cours du soir, je l'ai fait le dactylo pour... parce que mon mari allait monter une entreprise et qu'il fallait monter, faire les factures à l'aide de vie. Donc j'ai fait des cours du soir et j'ai... Ça m'aurait peut-être servi, remarqué, de le faire étant jeune, hein. Mais non. Secrétaire dactylo, il y avait que ça, hein. On nous proposait que ça aux femmes. Rue Tourcarré, là, il y avait le truc, là, qui passait dans la rue, la machine à écrire. C'était ça à l'époque. Hein. Quelle horreur. Mmh. J'ai appris là-dessus aussi, moi. Les claviers comme ça, ça n'existait pas. C'était la machine à écrire. Ça faisait du bruit. Hein. Bah, franchement, quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'on veut faire. De toute façon, ça c'est une certitude. J'ai toujours dit, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui quand on a 15-16 ans, la vie aurait été différente parce qu'on a d'autres... Maintenant, on sait ce qu'on aime. Mais à l'époque, non, on ne savait pas, je ne savais pas, non. Puis maman nous a pas réconfortés dans le fait de faire des études. Bon, maman nous élevait toute seule parce que papa était reparti sur Paris, ils se sont séparés. Donc, maman, c'était son commerce, 15 heures par jour, voilà. Débrouillez-vous. On s'est élevé toute seule. C'était un peu ça.
Je suis revenue après en secrétariat, donc c'était nos dactylos à l'époque, à la Bucaille à Cherbourg. Voilà, puis après j'étais sur le marché du travail. Et puis après j'ai fait pas mal de missions intérimaires. Un petit peu partout, et je me suis fixée à Cherbourg parce que mon mari, voilà, toute ma belle famille est là, et mon mari travaille à des CNS, donc voilà, on est resté là. Je suis allée faire les études de secrétariat parce que c'est quelque chose que je voulais faire, et oui, ça me convenait parfaitement, et j'ai pas cherché à changer non plus de parcours du tout. Puis j'ai toujours trouvé du travail, donc. C'est difficile aussi sur Cherbourg de trouver du travail. Mais non, j'ai jamais eu de difficultés. Il ne fait pas beau à Cherbourg.
Je m'appelle Sylvie Spiteri. Il ne fait jamais très chaud en été à Cherbourg et jamais très froid en hiver. C'est un climat maritime. Nous allons à la piscine le jeudi après-midi et le samedi matin. Je suis dans le groupe des moyennes.
Voilà, moi, je n'ai pas quitté mon quartier. Je suis à 1 km de l'école. J'ai suivi mes études jusqu'au bac dans le quartier, puisque j'étais au lycée Tocqueville au Maupas. Hein, même chose, à 1 km d'ici. Donc après, j'ai quand même bougé. J'ai été sur Le Mans faire des études de chimie. Et mon mari étant de la région... je suis revenue ici, j'ai trouvé du travail ici et j'enseigne dans le coin, donc voilà, tout simplement. Voilà. Et toi, t'es...
Eh ben, j'ai fait au lycée technique mes études et puis après, ben, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, il était dans le coin aussi, puis voilà. Donc le fait, eh ben.
Voilà, on est resté.
On est resté ici, puis moi j'aime bien ma région. Moi j'ai un mari qui fait du déplacement, j'aime bien ma maison, j'aime bien mon coin, c'est très beau, je me plais là. Je ne me verrais pas habiter ailleurs.
C'est les époux qui voyagent, nous voilà. On est sédentaires. C'est simple.
Ben, c'est simple, voilà.
Heureuse.
Ouais, oui, heureuse. On est resté
dans notre quartier.
C'est pour ça qu'on se voit de temps en temps.
Voilà, on se croise, voilà, c'est ça, ouais.
À Leclerc.
Oui, souvent. Depuis, on s'est déjà vu pour prendre un petit café, hein.
Oui, oui, oui.
Mais voilà, pas plus que ça.
Mais c'est bien parce qu'on se côtoie toujours.
Voilà, si on se voit dans la rue, on se dit bonjour, par contre, oui.
Parce qu'on en voit qui était de notre classe, qui fait mine de ne pas nous voir, hein. On n'est pas assez bien, hein.
Oh, je sais pas si c'est ça.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a des gens, ils sont un peu timides.
Ouais, je pense qu'ils ont tous pris des voies différentes, ouais, des copines. Mm. Mais c'est vrai que ce que je vois quand je suis quittée, genre, ça m'arrive d'en revoir du Maupas, et puis on reparle de nos trucs qu'on faisait ensemble. Pas nos bêtises, mais bon, on s'amusait bien. Voilà. Mm.
S'il y avait une bêtise, de toute façon, c'était évident que ça venait de là. Ouais. S'il y avait une fausse, c'était toujours la même famille. Du Maupas qui était tout de suite montré du doigt dès que ça n'allait pas. Le Maupas, c'était stigmatisé. Venir du Maupas, le Maupas, ça voulait dire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a des noms comme ça qui restent associés à un endroit.
Je m'appelle Patricia Jourdain. À Cherbourg, il n'y a pas beaucoup de monuments. La statue Napoléon et l'église de la Trinité. Le port. Les gens qui habitent le plus près du port sont à 500 mètres.
Déjà, en primaire, on se rendait compte que qu'on n'avait pas tous les mêmes chances, ça c'est sûr. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui travaillaient, d'être bien entourée, de pouvoir discuter à la maison, de pouvoir participer à la conversation. Enfin, ils étaient attentifs, en tout cas, à ce qu'on pouvait faire au niveau scolaire. Et je pense que même le regard... C'est dur, hein, ce que je vais dire. Je pense que même le regard des institutrices, il était parfois différent en fonction de qui on était ou d'où on venait. Moi, je voulais faire des études. Voilà. Médecine, pas forcément. Je n'ai pas forcément une vocation particulière pour la médecine. Mais je trouvais que c'était le moyen de toucher à la fois ce qu'il y a de scientifique et de littéraire. En plus, dans le soin palliatif, parce que certes, il faut avoir certaines bases techniques, surtout quand on soulage les douleurs, mais en même temps, on est énormément dans le relationnel. J'aime bien dans la médecine, c'est qu'il y a toujours une histoire, et puis on rencontre des familles, on rentre dans leur intimité. Donc je pense que quelque part, le fait de pouvoir s'exprimer, c'était quelque chose moi, qui m'a suivi tout le temps, je crois, c'est ça. Moi, j'étais surtout bonne à l'oral. Des fois, j'en discute avec mes infirmières, parce que comme on s'est retrouvés après au collège et au lycée, elles me disent « Ah bah, ça m'étonne pas que t'aies fait ça !» Voilà, c'est des trucs qu'on peut entendre parfois. Mmh. Alors qu'on se voit pas forcément comme ça, nous, quand on évolue. Mmh. Finalement, je crois que les choses sont écrites dès le départ.
Je ne sais pas si le lieu, l'endroit a quelque chose à voir. La personne qui voulait y arriver et s'en sortir, je pense qu'elle a dû y arriver. Je rêvais de vacances, de voyages, de trouver un bon travail, un bon métier. Tout ça n'est arrivé. Quoi. On rêvait surtout pas de la vie de nos parents. Ça, c'est clair. Je crois que j'ai suivi un petit peu le même chemin que mes parents. C'est vrai que j'ai eu mes enfants très très jeunes. Et à l'époque, je me suis dit, bon, à 50 ans, ils seront tous élevés, tous partis, je vais pouvoir en profiter. Finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que maintenant, je fais plus de projets. J'attends voir venir. Et puis... C'est vrai que c'est parce que... Ça fait quelques années que ma vie, elle est entre parenthèses. La situation fait que à part aller au travail et rentrer à la maison, c'est tout ce que je fais. Je fais que quelques heures pour l'instant. Parce que la situation, c'est pareil, ne permet pas que je m'échappe trop longtemps de la maison. Je vois que ça, que de partir de la maison pour aller au travail. C'est un besoin pour moi. Je ne profite pas beaucoup de mes petits-enfants, je ne profite pas de mes enfants, donc je me suis complètement isolée. Maintenant, c'est à savoir comment je vais faire pour pallier à ça. Parce que j'arrive que j'en ai marre et j'ai envie d'avancer, de bouger, ne pas rester enfermée. Avec mon mari, je vis dans la crainte et la peur. Et ça, c'est comme ça depuis 16 ans. Parce que c'est un homme qui a un très fort caractère et qui est très autoritaire. C'est exactement mon père. Je le vois, je vois mon père. Avec la violence, avec l'autorité, avec... Mon père m'a mis des coups, mon mari m'a mis des coups. Donc, c'est exactement les deux mêmes personnes. Et je comprends mieux comment ma mère vivait vis-à-vis de mon père. Quand elle nous disait, il va rentrer de sa lui, vous allez tous vous coucher, par exemple. Je comprends mieux quand, maintenant que ça m'est arrivé. Et c'est vrai, c'est pas la vie que j'aurais voulu.
Je m'appelle Valérie Lemollet. Cherbourg est une petite ville de 40 000 habitants. À Cherbourg, il y a des clubs de football. Autour de Cherbourg se trouvent des plages rocheuses et d'autres sableuses. À Cherbourg, il n'y a pas de falaise. Je suis allée passer mes vacances à Cerisy-la-Salle en campagne.
Je m'appelle Valérie Lemollet. Cherbourg est une petite ville de 40 000 habitants. À Cherbourg, il y a des clubs de football. Autour de Cherbourg, il se trouve des plages rocheuses et d'autres sableuses. À Cherbourg, il n'y a pas de falaise.
La mer est partout. Vous pouvez très bien, sur une même journée, aller voir le soleil qui se lève d'un côté et puis traverser le Cotentin et aller voir le soleil qui se couche de l'autre côté.
La mer est bleue quand il fait beau et elle est grise quand il fait gris.
Je pense que les gens qui sont dans la région, ils sont relativement attachés.
Isabelle Lemaire, Sylvie Spiteri, Véronique Léon, Sandrine Godel,
Patricia Jourdain,
Catherine Marron, Bernadette Baudet, Nathalie Robillard, Martine Fiat, Nelly Jacquet, Marie-Lyne Gauthier, Martine Le Chevalier, Nadia Tisson, Sophie Dubé, Nathalie Sanson, Nathalie Tardif, Agnès Le Terrier et Catherine Le Terrier.
Madame Grandguillette.
À Cherbourg, la mer est bleue quand il fait beau, une création de Jean-Baptiste Julien et Marie-Laine Carr, réalisée par Christine Digère. Prise de son, Benjamin Thuau. Mixage, Pierre Mine. Assistante de production, Inès De Bruyne. Coordination, Irène Omelianenko. Musique, Jean-Baptiste Julien. Lecture des textes de Jeanne Grandguillotte, Virginie Vaillant. Merci à France Bleu Cotentin, la Maison Françoise et Giroux de Cherbourg, la Mission Développement Urbain de la Ville de Cherbourg, l'Institut Coopératif de l'École Moderne et les Amis de Freinet.
Cette émission est disponible en réécoute et podcast sur notre site. Demain, dans Création On Air, Torii, la porte du mois, par Paul Ramage, Vincent Leboeuf, Nathalie Salle.